urgent particulier pour lequel vous voudriez qu'on prie avant de commencer notre étude biblique. Une dame qui s'appelle Sarah.
Qui a contacté l'église par téléphone. Les questions ont été posées. Elle est un peu catholique, mais dimanche, on l'a vu jamais. Elle a posé une bonne question. Et elle restait pour le culte. Et elle a proposé à Sarah qu'elle était intéressée. Et comme elle avait fait une centaine de questions, éventuellement, on lui a proposé de faire un petit là et elle serait d'accord.
Ah, c'est bien. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y aurait un autre sujet pour lequel vous voudriez qu'on prie?
Céline et Florence.
Céline, voilà, et Florence.
C'est deux personnes que... et le papa. Enfin, en fait, c'est une famille avec la fille qui est rentrée aux urgences pour une hémorragie méningée. Et la maman qui l'a amenée à l'hôpital quelques jours après qui fait un arrêt cardiaque. Donc c'est compliqué, donc ouais. Voilà, je pense que c'est une occasion de prier ensemble pour eux, parce qu'ils savent qu'on est plusieurs à prier au nom de Jésus. D'accord. Et c'est une famille qui n'est pas encore dans cette... Enfin, voilà, je ne crois pas qu'ils connaissent encore Jésus.
D'accord.
Voilà.
Donc Céline et Florence.
Céline et Florence.
D'accord. Est-ce qu'il y a autre... Elle s'appelle Sarah.
Sarah.
Oui. Bien. Et peut-être que David, hein, Péry, oui. David Péry. C'est vrai qu'il y a plusieurs David et plusieurs Alain dans l'église. Hein. Faut toujours préciser. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde et on va juste prier. Et voilà, madame David.
Oui, notre Dieu, notre Père, encore un grand merci pour nous permettre de nous réunir ce soir autour de ta parole, autour de toi. Ces moments où on peut vraiment rentrer dans ta sainteté. Et avant de commencer ces moments, nous voulons vraiment te remettre ces personnes dont nous avons nommées, particulièrement Sarah, et c'est la famille de Céline également et de Florence. Tu vois les situations particulières qu'elles vivent. Nous te demandons vraiment que tu puisses les guérir, mettre ta bonne main sur eux et surtout qu'ils puissent comprendre à travers ces circonstances que toi seul es Dieu et que toi seul es le vrai sauveur, que toi seul es la porte, la vie éternelle et qu'ils puissent venir à toi définitivement. On te remet encore ce soir Jean pour son message, qu'il puisse nous apporter aussi et que tout puisse être pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Bien, bonjour à tout le monde, ceux qui n'étaient pas là au début. Alors aujourd'hui, vous connaissez le sujet qu'on va aborder.
La chute.
La chute. C'est le sujet donc de ce soir, la chute de l'homme. Enfin, quand je dirais l'homme, c'est l'homme et la femme. Voilà, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, juste quelques mots d'introduction. La chute de l'homme, et quand vous en parlez aux gens dans le monde, ils vont vous rire au nez. Parce que c'est un sujet dépassé, c'est des légendes, c'est des contes. Ils prêtent pas attention. Je dirais même dans certains milieux chrétiens, on a du mal à parler du péché. Parce que ça fait un peu démodé, ça crée une certaine gêne. Et pourtant, si vous enlevez le sujet de la chute, toute la vie chrétienne, tout le reste s'effondre. La rédemption, le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, le retour, etc. Tout s'effondre. C'est comme la Bible est un tout, si vous enlevez une pièce du puzzle, tout s'effondre. Et donc, il est absolument important pour nous d'être au clair sur la parole de Dieu, dans ce sens que la parole de Dieu est véritablement la parole de Dieu. Depuis le premier, la première lettre de la Genèse, jusqu'à la dernière lettre, au dernier trait de lettre de l'Apocalypse, le livre inspiré par Dieu. Si on n'en est pas convaincu, tout le reste se met à flotter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cohésion et on prend ce qu'on veut et on rejette ce qu'on veut. Pour nous, le récit de la Genèse, tout comme toute la parole de Dieu, est inspiré et véridique, et ce ne sont pas des contes ni des légendes. D'ailleurs, si vous regardez bien, notre Seigneur a confirmé le récit de la Genèse, d'ailleurs de toute la Bible, de tout l'Ancien Testament, le Seigneur et les apôtres ont mis leur sceau sur la véracité, l'historicité de tout l'Ancien Testament. Jésus dira même dans Luc 16-17, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Un seul trait de lettre vienne à tomber. Et l'apôtre Paul dit aussi, toute écriture dont le livre de la Genèse et le récit de la chute est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc c'est avec confiance et avec certitude que ce soir nous abordons ce récit de la chute de l'homme, historique, véridique. Et voilà, donc je vais, comme d'habitude, vous distribuer la trame sur laquelle nous allons travailler. Voilà.
Merci.
Avec toujours la même consigne que la dernière fois, à savoir... Il y a pas mal de versets, mais nous ne lirons que les versets qui sont en gras et en italique. Alors, il y a des... Tout le monde a le... Sinon, il y en a encore ici. Voilà. Pour bien comprendre la chute de l'homme, il nous faut d'abord examiner ce qu'est le commandement de Dieu. Parce que la chute de l'homme est la conséquence d'une transgression. La transgression d'un commandement, le commandement de Dieu. Donc, nous allons rapidement, on ne peut pas rentrer en détail, hein, nous allons rapidement voir ce qu'est la loi de Dieu. La loi de Dieu est l'expression de sa volonté. Et c'est aussi le reflet de ce que Dieu est. De ce que Dieu est, c'est-à-dire de sa nature morale essentiellement. Regardez par exemple Matthieu 5, 48. Matthieu chapitre 5, verset 48.
Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait.
Voilà. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc, notre Père Céleste étant parfait, ses créatures doivent également être parfaites. Et donc, l'exigence de la perfection n'est que le reflet, l'expression de la nature même de Dieu. Et quand on parle de la loi de Dieu, du commandement de Dieu, il faut distinguer deux formes de loi. Il y a ce qu'on appelle la loi naturelle. Qu'est-ce que c'est que cette loi naturelle? Eh bien, c'est la loi qui est incorporée directement dans les créatures. Tant les créatures inertes que les créatures vivantes. C'est-à-dire, quand par exemple je laisse tomber, enfin je lâche mon stylo, le stylo tombe, il est soumis à une loi qui s'appelle la gravité. Et cette loi est directement incorporée dans la nature. C'est la nature des choses comme ça. Tout objet qui possède une masse attire et est attiré. Donc, il y a la loi dite naturelle. Par exemple, regardez à ce sujet Job 38, les versets 8 à 11.
Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots.
La loi de Dieu est inscrite dans les éléments inertes, mais elle est aussi inscrite dans les éléments vivants, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'être humain, par exemple, ou dans l'animal, une loi, des lois de comportement que Dieu a incorporé directement. Regardez par exemple Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Romains 2, 14.
En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent au lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres.
Donc Dieu a directement incorporé dans le cœur de l'homme mais la notion du bien, du mal, etc. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette loi se trouve dans chaque être humain. Voilà donc pour la loi naturelle. Mais il y a aussi, à côté de cette loi naturelle, une autre forme de loi qui s'appelle la loi des ordonnances. Que ces ordonnances soient verbales ou écrites. Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 15.
Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix.
La loi des ordonnances. C'est donc la loi écrite ou la loi verbale dicté directement par notre Seigneur. Dieu est donc celui qui a créé, entre guillemets, la loi, qu'il a incorporée dans ses créatures, ou qu'il a dictée directement à ses créatures que nous sommes. Et c'est aussi lui qui veille à son application. Comment il le fait? Mais par sa puissance. La puissance de Dieu veille sur l'application minutieuse, exacte, de la loi de Dieu. Et l'homme n'y échappe pas. Et même des sanctions sont prévues lorsque cette loi n'est pas respectée. Par exemple, prenez Lévitique chapitre 20, verset 2. Lévitique 22. Lévitique
dira aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël, des étrangers qui séjournent en Israël, livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera.
Voilà. Il y a donc la loi et son application. Si la loi n'est pas respectée, en fait, dans ce qu'on vient de lire, eh bien, la personne qui a violé cette loi est punie de mort. La sanction tombe. Donc Dieu est le législateur et celui qui met en application les sanctions lorsque cette loi n'est pas respectée. Voilà le cadre dressé par Dieu. Et à propos de la chute, justement, Dieu a mis l'homme et la femme dans ce cadre, un cadre de législation et de sanction si cette loi n'est pas respectée. Au commencement, donc, Dieu créa l'homme et la femme. Tous les deux étaient saints, innocents, c'est-à-dire non coupables, hein. Ils étaient coupables de rien. Et, très important, avec un libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de choisir. Ce n'étaient pas des automates. Dieu n'a pas créé d'automates. Mais Dieu a créé l'homme et la femme avec un libre arbitre. Et on va voir que c'est ça, finalement, qui va être, en quelque sorte, la cause de la chute. Un des éléments constitutifs de la chute de l'homme et de la femme. L'homme et la femme ont chuté parce que, quelque part, ils avaient été créés libres et ils ont usé de cette liberté dans un mauvais sens. Dieu aurait pu créer des robots qui lui auraient obéi au doigt et à l'œil. Et finalement, on va voir que cela, en fait, aurait été contraire à la nature même de Dieu. C'est impossible qu'un Dieu tel qu'il est puisse avoir des créatures qui se comportent comme des robots. C'est impossible. Dieu a donné un libre arbitre à l'homme et à la femme. Et Dieu a donné donc, en tant que législateur, il a donné un commandement à l'homme et à la femme. Et ce commandement, c'est donc celle qu'on trouve dans Genèse chapitre 2, versets 16-17. Voilà, donc le commandement c'est que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà la loi, le commandement. Et la sanction, le jour où tu vas transgresser cette loi, tu mourras. Et Dieu, par sa puissance, veille à l'application intégrale de la sanction. Il ne peut pas passer outre la sanction. Donc, voilà le cadre dans lequel l'homme et la femme ont été placés. Alors, l'homme, on sait que l'homme et la femme ont désobéi. Et on va voir quel est le cheminement qui a fait que l'homme et la femme en sont arrivés à la désobéissance. Qu'est-ce qui a fait, quel est le parcours par lequel sont passés l'homme et la femme pour arriver à cet acte de désobéissance dont nous subissons les conséquences jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quel a été l'historique de la chute? Et tout d'abord, voyons les instruments de cette chute. Et en premier lieu, l'instrument, l'instigateur de la chute, c'est Satan, l'adversaire. Hein. Satan veut dire adversaire. Regardez Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, 9.
Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Voilà, donc vraiment celui qui séduisait toute la terre l'adversaire, c'est Satan. C'est donc lui l'instigateur de la chute. Et pour communiquer avec l'homme, alors là, c'est un mystère. On va voir beaucoup de mystères ce soir. Hein. Des choses qu'on ne pourra pas expliquer vraiment parce qu'il semble que Dieu n'a pas donné la réponse jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Satan s'est-il servi d'un animal, d'un serpent, pour communiquer avec l'homme? Je pense qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante à cette question. En tout cas, toutefois est-il que Satan a utilisé le serpent. Alors le serpent, au départ, n'était pas un reptile. Il avait ses pattes, etc. Et il est devenu reptile après la chute. Donc, Satan va utiliser un serpent. Alors, l'autre mystère, est-ce que c'était un serpent en chair et en os? C'est-à-dire l'animal qu'on connaît. Hein?
Oui.
Ou alors, est-ce que c'était une imitation? Beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément une réponse. En tout cas, il va utiliser le serpent. Pourquoi? Mais c'est dit, Genèse 3.1, est-ce que vous pouvez lire Genèse 3.1? Pourquoi il a utilisé le serpent?
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?»
Le plus rusé de tous les animaux. Donc, Satan savait très bien qu'il devait utiliser une ruse pour faire tomber l'homme et la femme. Et il a cherché parmi toutes les créatures vivantes de Dieu, et il a trouvé le serpent. Alors, est-ce que le serpent était consentant? Est-ce qu'il avait donné son accord? Ou alors, est-ce que c'est par force que Satan a utilisé le serpent? Là, un autre mystère encore. En tout cas, d'après les sanctions qui vont tomber plus tard, il semble que le serpent était d'accord que le diable, le Satan, se serve de lui. Et Satan va utiliser donc la ruse et le mensonge. La ruse et le mensonge. Regardez 2 Corinthiens 11.3.
Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.
Et nous allons voir dans Genèse chapitre 3, les 5 premiers versets, on va regarder quelles sont les ruses que Satan a utilisées. Genèse 3, versets 1 à 5. Et à chaque fois que vous allez découvrir une ruse, vous notez et on listera donc... on donnera cette liste de ruses utilisées par Satan. Genèse 3, versets 1 à 5.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, je ne mangerai aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal.
Est-ce que vous avez vu déceler quelques mensonges, quelques doutes, quelques ruses, qu'est-ce que vous voyez dans cette liste-là? Dans ce qu'on vient de lire.
Il fait douter la femme.
Il fait douter la femme. Comment il fait douter la femme?
En lui disant, Dieu a-t-il réellement dit?
Non, j'allais dire quelque chose de méchant.
Alors ne le dis pas. Ne le dis pas alors.
Je vais le dire après.
Oui. Oui, alors qu'est-ce que vous avez relevé? Oui. Voilà, mise en question de la parole de Dieu. Très important. Et après? il y a le mensonge direct. Hein.
Oui.
Vous ne mourrez pas. Il contredit directement et brutalement la parole de Dieu. Oui. Oui, qu'est-ce que tu dis, Georges ?
Il a séduit
la femme, la séduction. Très important, la séduction.
Il montre aussi le bon. Parce que Dieu a dit, vous montrez, mais lui il dit, je sais que le jour de mon Dieu, vous serez comme des dieux. Donc, il a dit, je sais pas, c'est quel moment vous faites de toi
comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Satan, remarquez que Satan n'aurait jamais réussi à faire chuter l'homme et la femme si ceux-ci n'avaient pas commis un certain nombre d'erreurs qu'on va voir. Et c'est notre Seigneur qui a été tenté de la même manière par Satan n'a pas commis d'erreurs. Et c'est pour ça qu'il est sorti vainqueur. Mais là, l'homme et la femme auraient pu éviter certaines erreurs. Quelles sont les erreurs de la femme lorsqu'elle s'est retrouvée en face de Satan? La première erreur, c'est une absence totale de discernement. D'abord, un serpent qui vous parle, c'est quand même curieux. Un serpent qui vous parle. Moi, je n'aurais pas maintenu un dialogue avec un serpent qui me parle. Je serais parti en courant. Enfin, bon, ça c'est après coup. Hein, après coup. C'est facile à dire quand... tout est déjà réalisé.
C'était le début de la création.
Oui, c'était le début. Donc,
vous voulez savoir qu'il faisait quoi?
Voilà, le manque de discernement. Manque de discernement quant à la façon d'aborder l'animal qui est le serpent. Un manque total de discernement. Ensuite, au verset 2, est-ce que vous pouvez relire le verset 2 du chapitre 3? Nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'elle rajoute?
Non, elle ne rajoute rien.
Au chapitre 3, au verset 3. Est-ce que vous... Oui.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, je n'en mangerai point, de peur que vous ne mangez.
Ah! Là, il y a une erreur grave de la part de Ève, laquelle? Oui, mais il y a une erreur plus grave encore. Oui, elle a rajouté un élément que Dieu n'avait pas dit. Quel est cet élément? Vous n'y toucherez pas. Dieu n'a jamais dit que qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre. Il fallait pas manger de son fruit, mais on pouvait toucher. Donc, voyez-vous, la déformation de la parole de Dieu. Quand nous déformons, ne serait-ce que nous déplaçons juste une virgule, et je peux vous citer de tas de sectes qui sont nées juste parce que on a déplacé une virgule. Vous déplacez uniquement une virgule et tout s'écoule. Vous pouvez faire dire à la parole de Dieu n'importe quoi. Et là, elle a rajouté un élément qui ne se trouvait pas dans la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment un avertissement pour nous à respecter intégralement la parole de Dieu. Et voyez aussi au verset 4 et 5. Est-ce que vous pouvez lire les versets 4 et 5? Voilà.
Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en as pas, tu mourras.
Oui.
C'est certain.
Oui.
Parce qu'elle, elle a un doute.
Elle a un doute. Exact, Didier. C'est très bien. Il y a un doute déjà dans l'esprit de Ève. Et regardez les versets 4 et 5. Et Ève va manger de l'arbre défendu, du fruit de l'arbre défendu. Il y a là un manque de confiance dans la personne même de Dieu. Voilà un contradicteur qui nie brutalement la parole de Dieu. Et chez Ève, ça ne provoque aucune réaction de stupeur, en quelque sorte. On ne nie pas la parole de Dieu. On ne la met pas en doute. Donc, il y a un manque de confiance dans la parole, dans ce que Dieu est. Dieu est juste, il est parfait, il ne se trompe pas. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Donc, si quelqu'un vient, serait-ce même un serpent, qui vient me nier brutalement la parole de Dieu, mais attendez, mais c'est une provocation incroyable. Et Ève, elle va se laisser mentir par le serpent. Donc, il y a un manque de confiance dans la personne même de Dieu, dans ce que Dieu est. Voilà une autre raison pour laquelle Ève est tombée. Mais il y a aussi les versets 6. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 6 ? Ah, regardez l'explication de cela dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Jean 2 16 qui va nous expliquer ce qui se passe ici. Voilà. Ève est tombée par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, bon à manger. C'est succulent. Ensuite, la convoitise des yeux, agréable à voir. La beauté peut nous faire chuter, frères et sœurs. Quand on voit quelque chose de beau ou une belle personne, il faut faire quand même attention quelque part parce que si cette beauté est mal utilisée, elle peut être un élément de chute. Et l'orgueil de la vie, ouvrir l'intelligence, enfin on sera intelligent, on sera comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà une des raisons pour lesquelles Ève est tombée. Elle est tombée par manque de discernement. Elle est tombée parce qu'elle n'a pas discerné, elle a déformé la parole de Dieu. Le manque de confiance en Dieu, la mise en doute de la parole de Dieu, et par ces trois choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà pour Ève. Et Adam ? Comment est tombé Adam ?
Affection pour
elle. Voilà, Adam est tombé par affection. La femme est tombée par séduction, elle a été séduite. Mais l'homme est tombé par affection, par amour pour sa femme. Et rappelons-nous quand Dieu a amené la femme devant Adam. L'exclamation d'Adam, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Il était émerveillé devant cette belle créature. C'était pas mauvais en soi, c'était vrai. La femme était extrêmement belle. Mais ce qui est bien, ce qui est bon, peut devenir une occasion de chute. Si on l'emploie à mauvais escient, ça peut devenir une occasion de chute. En tout cas, pour Adam, c'est devenu une occasion de chute. Il est tombé par affection. Oui.
Après, je ne sais pas si elle en a parlé. En tout cas, elle n'avait pas pris la décision déjà d'en parler à son mari avant d'en manger elle-même. Mais également, en plus, que ce que je vois, c'est qu'il n'est pas forcément fait mention qu'elle l'a averti de ce qu'elle lui donne.
Ah.
Enfin, je ne sais pas. Je sais
en tout cas, Adam savait très bien que ce fruit-là,
il ne fallait pas le manger.
Il a manqué aussi de vigilance. Très bien. Il a manqué de vigilance.
Je vais juste rajouter que le verset qui dit que Adam était auprès d'elle, c'est pas dit par hasard.
Oui.
Adam était à côté.
Oui.
Donc on retombe à tomber par affection.
Voilà, voilà. Alors regardez par exemple 1 Timothée 2, 14. 1 Timothée 2, 14.
Ce n'est pas Adam qui a détourné, qui a été détourné de la vérité, c'est la femme qui a désobéi au commandement de Dieu.
La femme a désobéi au commandement de Dieu et elle a été séduite. L'homme Adam est tombé par affection, mais le péché est entré dans la race humaine par Adam. C'est par Adam que le péché est rentré dans la race humaine. Regardez au Romains chapitre 5, versets 12 et 14. Romains 5, 12 et 14.
Dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car,
oui.
C'est bon ?
Oui.
Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.
Par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est par Adam, donc par l'homme, que le péché est entré dans le monde parce que Adam est le représentant. En fait, le représentant, tout comme pour Christ, hein, est le représentant de la nouvelle humanité. Adam est le représentant de l'ancienne humanité. Et le péché est rentré dans le monde, dans la race humaine, par son représentant. Tout comme le salut est accordé aux hommes par son représentant. Quelles sont les conséquences de la chute? Les conséquences ont été immédiates pour certaines et un peu plus tard pour d'autres. Mais en tout cas, Dieu, dans sa puissance, a veillé à l'exécution des sanctions qui étaient prévues en cas de désobéissance. D'abord, sur l'homme et la femme, quelles sont les conséquences de la chute? Genèse 3, versets 7 à 19.
Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en faisant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » Celui-ci répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Alors répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est dans les souffrances que tu mettras au monde tes enfants. Tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. »
Versets 23 et 24. Oui, oui.
On les connaît déjà.
Vas-y, Odile, oui. Vas-y.
Bien, alors, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont tu t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras les produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque tu as été tiré de celle-ci, car toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.
Ok. 23-24.
Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie.
Et Galates 5:5.
Genèse, pas
Galates. Pardon, Genèse, je dis Galates. Genèse, excusez-moi. Genèse 5:5. Voilà. Alors, les conséquences. La nudité, la peur, les accusations réciproques, l'homme et la femme s'accusant mutuellement, les grossesses rendues pénibles, la pénibilité du travail pour Adam, et ils sont chassés du jardin d'Éden. Voilà les sanctions. Et en dernier lieu, la mort. Donc, Dieu a veillé à appliquer à la lettre les sanctions qu'il avait, dont il avait averti l'homme et la femme. Et voilà pour l'homme et la femme. Et le serpent, quelle est la sanction pour le serpent? On l'a lu tout à l'heure.
Ouais.
Oui.
Il marchera sur son ventre.
Voilà, donc il perd ses pattes, hein. Il devient un reptile.
Ouais.
Il mord la poussière. Et
c'est une quand même qui est importante pour le serpent.
Oui.
C'est dans le verset 15.
Voilà. Tu peux le lire?
Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu ne mordras le talon.
Voilà. Et on va revenir sur ce verset très précisément, parce qu'il est extrêmement important. Voilà les conséquences pour le serpent. Et sur la nature, quelles sont les conséquences pour la nature? Le sol, les arbres, etc. On l'a lu tout à l'heure.
Ce sera plus difficile à cultiver. Voilà,
des épines. La terre est maudite. Et
à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
Voilà, donc la terre ne donnera plus les bons fruits, mais c'est avec peine que Adam et Ève vont manger, en fait. Voilà pour la nature et pour la race humaine, les descendants d'Adam et Ève. Regardez Genèse chapitre 4, le verset 8. Et le tua, le meurtre, l'animosité, c'est comme disait quelqu'un la Première Guerre mondiale, hein. C'est vraiment une horreur. Ensuite, Romains chapitre 5, versets 12 et 18. Romains 5, 12 et 18.
Pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous est-il donc comme une seule fois, par une seule fois que la relation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification s'étend à tous les hommes.
Voilà. Donc, tous ont péché, vous et moi, hein, parce que Adam a péché. Le péché est rentré dans le monde et comme une hérédité inévitable. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que l'homme, c'est un être qui se reproduit par hérédité. Autant il y a l'hérédité physique, autant il y a l'hérédité spirituelle, en tout cas en ce qui concerne le péché d'Adam. Nous héritons, qui que nous soyons, nous avons hérité du péché d'Adam. La mort s'est étendue à tous les hommes. Mais heureusement, et nous revenons sur le verset qu'a souligné Odile, heureusement que dans sa miséricorde, l'homme et la femme reçurent de Dieu la promesse d'un rédempteur. Est-ce qu'on peut relire les versets 15 et 21 de Genèse 3?
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Et c'est qui, c'est quoi cette postérité de la femme? De qui il est question ici? Et du Seigneur Jésus, hein?
Oui.
La postérité de la femme, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est bel et bien né d'une femme.
Oui.
Donc c'est le Seigneur Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Écraser, ça veut dire éliminer complètement. Mais blesser le talon, c'est pas écraser. Le serpent, effectivement, a frappé le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est mort. Mais il n'est pas mort définitivement, il est ressuscité.
Oui.
Et donc, son talon a tout simplement été blessé. Le talon, c'est le symbole de la force. Mais le serpent, lui, en revanche, il a reçu une mort éternelle. On le verra tout à l'heure. Le verset 21.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit.
Voilà une préfiguration de la croix. Un animal innocent sacrifié pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. C'est une préfiguration du Seigneur Jésus, innocent, qui allait couvrir notre nudité, notre péché. Donc, la promesse d'un rédempteur est déjà contenue dans, juste après la chute, est déjà présente juste après la chute de l'homme et de la femme. Et c'est vraiment une grâce. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour ses créatures. Et la chute de l'homme et de la femme, donc voilà comment ça s'est passé. Et ça nous amène à nous interroger sur la nature même du péché. Parce que on a parlé du péché de Adam et Ève, mais au fond, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Adam et Ève ont péché. Et le péché, littéralement, ça veut dire manquer le but ou la cible. Vous savez, quand les archers s'entraînaient, peut-être qu'il y a des gens ici qui font du tir à l'arc. Quand vous tirez sur une cible et que vous ratez la cible, en fait, vous péchez. Vous avez péché. Enfin bon, évidemment, symboliquement, hein. Mais voilà, ratez la cible. La cible, c'était Dieu qui avait fait l'homme et la femme dans un but précis. Et l'homme et la femme ont raté la cible, ont raté l'objectif premier de Dieu. Et donc, ils ont péché. Voilà ce que veut dire péché. Romains 3, 23. Quelqu'un peut lire Romains 3, 23? Oui.
Car tous sont péchés et sont privés de la gloire.
Car tous sont péchés. Et le mot qui est traduit par péché ici, ça veut dire rater la cible. Car tous ont raté la cible. Personne ici ne peut dire que moi je suis en plein dans le mille. Non. Nous avons tous raté la cible. parce que nous sommes des descendants d'Adam. Et quels sont les... Bon, il y a des synonymes, il y a plein de synonymes dans la parole de Dieu concernant le péché. Il y a le péché, vous avez toutes les références, enfin, une partie des références en tout cas. Le péché, qui est aussi appelé la désobéissance, la faute, l'iniquité, l'impiété, la transgression, l'offense, l'ignorance, la méchanceté, l'incrédulité, l'injustice, la fraude, l'irréligion, etc., etc. Il y a beaucoup de synonymes concernant le mot péché. Mais la vraie définition, la véritable définition de péché, nous la trouvons dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Jean chapitre 3, verset 4 ?
Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Voilà, le péché est la transgression de la loi. Le péché est un mal moral. C'est un mal moral. Pourquoi je dis ça ? Parce que par opposition à un autre mal, qui lui est le mal physique, mais qui ne constitue pas en soi un péché. Regardez par exemple Ésaïe chapitre 45, versets 5 et à 8. Ésaïe 45, versets 5 à 8.
Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, à part moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant qu'en dehors de moi il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je réalise la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes les choses. Jusqu'à 8. Que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre pour que tout ensemble le salut fructifie et que la justice germe. Moi, l'Éternel, j'en suis le créateur.
Voilà. Alors ici, évidemment, ce sont des mots physiques. L'obscurité, la lumière, les ténèbres, la sécheresse, la pluie, etc. C'est des mots physiques. Et Dieu, il dit, c'est moi qui crée tout ça. Mais bien évidemment, Dieu ne crée pas en tant que tel le péché, qui est un mal moral. Donc il faut distinguer les mots physique et les mots moraux. Les mots moraux font partie du péché. Donc le péché est un mal moral. Et la chute de l'homme et de la femme a révélé la vraie nature du péché. Parce que, en fait, le péché c'est un tyran. C'est un principe tyrannique, c'est-à-dire ce que la Bible appelle la loi du péché. Et on ne peut pas échapper à cette loi. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, je lâche mon stylo, le stylo tombe. Le stylo ne peut pas échapper à la loi de la gravitation. Personne ne peut échapper à la loi tyrannique du péché. Et c'est un principe. Et c'est en même temps ce mal, ce principe qui est venu habiter dans l'homme. Ce mal a fait de l'homme, a pris ses quartiers en quelque sorte dans l'homme, dans la chair, ce que la Bible appelle la chair, la nature corrompue de l'homme. Et étant dans la nature corrompue de l'homme, étant un mal, un chef tyrannique, il va pousser l'homme à commettre des actions mauvaises. Et ces actions mauvaises s'appellent les péchés. Il faut distinguer donc le péché qui est ce chef en quelque sorte qui est venu habiter dans la nature humaine et qui va provoquer des actions. Et ces actions sont les péchés, les transgressions. Que ces péchés d'ailleurs soient visibles ou pas, une transgression n'est pas forcément visible, hein. Et c'est ce que nous dit le Seigneur, hein. Celui qui convoitera dans son cœur une femme, etc. Donc, ça peut ne pas se voir. Mais en tout cas, le péché va provoquer des péchés, va pousser à commettre des péchés, des actes de péché. Regardez par exemple Romains chapitre 7, versets 14 à 25, et c'est un passage très important concernant le tyran, là où il a pris ses quartiers et ce qu'il fait ensuite. Regardez Romains chapitre 7, versets 14 à 25.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché.
Ah ah, c'est vraiment terrible. Un tyran auquel on ne peut pas échapper. Et le péché, une fois qu'on a péché, nous sommes coupables devant Dieu. 1 Jean 3, 4.
Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Voilà. Nous sommes transgresseurs, donc coupables. Ensuite, nous contractons une souillure, ça nous salit, le péché. Regardez Exode, Ézéchiel chapitre 39, verset 24. Ézéchiel 39, 24.
C'est parce qu'ils se sont souillés et ont commis des crimes que je les ai traités ainsi et que je me suis détourné d'eux.
Voilà, souillés. Le péché, c'est vraiment cette saleté. Ça nous rend sales devant Dieu. Et aussi, vous trouverez dans le monde même qui nous entoure des personnes qui vont vous parler du péché originel. Mais qu'est-ce que c'est que le péché originel ? C'est tout simplement le péché d'Adam. Hein? Donc, c'est parler pour ne rien dire. C'est vraiment le péché d'Adam.
Péché d'Adam.
Voilà, le péché d'Adam est appelé aussi péché originel. Donc voilà comment l'homme et la femme sont tombés devant Dieu et comment ils sont devenus des transgresseurs et comment nous, en tant que descendants d'Adam et de Ève, sommes devenus des transgresseurs. Alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup, énormément de questions, mais bien sûr, nous ne pouvons pas les examiner toutes et nous ne pouvons pas répondre à toutes. C'est impossible et des questions resteront sans réponse. Tant que nous serons ici-bas, il y a des questions qui resteront sans réponse. Et parmi la foule des questions que l'homme se pose à propos de la chute, il y en a quelques-unes. Par exemple, comment un homme créé saint a-t-il pu tomber ? Incroyable ! L'homme créé saint, comment il a pu tomber ? Eh bien, d'abord, on dira que Dieu n'est pas responsable de la chute de l'homme. Dieu n'est pas responsable de la chute de l'homme. Parce que si vous regardez, par exemple, bon là on va peut-être pas les lire, mais Genèse 1, 31, où Dieu dit que ce qu'il avait fait était très bon. Ensuite, nous savons que Adam et Ève ont été placés dans un environnement idéal, sinon idyllique. Ensuite, nous savons très bien que Dieu leur a donné un libre arbitre. Et qu'ils pouvaient choisir le bien ou le mal. Et que dans ce libre arbitre, dans cette loi que Dieu avait donnée, il n'y avait pas un élément dans cette loi qui poussait l'homme à désobéir. L'homme pouvait très bien obéir à Dieu, mais il a choisi, et c'est là quelque chose de très important, il a choisi délibérément, en toute connaissance de cause, il a choisi de désobéir. Dieu n'en est pas responsable. Toute la responsabilité repose sur l'homme et sur l'homme seul. Pourquoi ? Mais regardez par exemple ce que dit 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Timothée chapitre 2 verset 14 ?
Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression.
La femme séduite s'est rendue coupable. Cette culpabilité est bel et bien réelle. C'est vraiment si Dieu a déclaré la femme et l'homme coupables, c'est qu'ils sont réellement coupables. Et cette culpabilité, en fait, Adam est entièrement responsable de sa propre chute. Par son libre arbitre, Adam a choisi délibérément de désobéir à Dieu. Ah oui, mais vous me direz, mais Satan, il s'est servi de la nature de l'homme pour le faire chuter. C'est vrai, Satan s'est servi de la nature humaine pour le faire chuter. Il savait très bien que dans l'homme, il y avait cet appétit de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est agréable. Et donc, ces choses qui étaient bonnes, Satan va les transformer en des choses qui vont provoquer la chute de l'homme. En fait, la technique, la tactique de Satan est toujours la même. Il prend ce qui est bon, ce qui est bien, et il en fait ce qui est mal. Par un mauvais usage, si nous utilisons mal ce qui est bien, nous chutons. Et l'apôtre Paul dit, tout ce que Dieu a créé est bon, mais parce que nous en faisons un mauvais usage, nous péchons à ce moment-là. Voilà donc la technique de Satan, c'est de prendre ce qui est bon et de faire quelque chose de mauvais. Mais alors, vous me direz, mais bon, ok, mais Dieu, comment un Dieu juste a-t-il pu permettre que l'homme soit tenté? C'est pas possible. Ben là, on dira plutôt que nous nous trompons, c'est nous qui nous trompons. En fait, la tentation, le commandement et la tentation d'Adam et de Ève ne relèvent pas de la justice de Dieu, mais au contraire, prouvent l'amour de Dieu. C'est difficile à admettre, mais pourtant c'est vrai. La chute, la tentation de l'homme et de la femme et leur chute, en fait, ça pointe le doigt sur l'amour de Dieu. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, c'est que qui dit amour dit liberté. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Si vous obligez quelqu'un à faire ce que vous voulez, vous ne l'aimez pas. La moindre des choses, c'est de lui laisser le choix. Déjà, premièrement. Le libre arbitre que Dieu avait mis dans l'homme et de la femme, et qui finalement, mal utilisé, ont conduit à leur chute, est une preuve, non pas de la justice de Dieu, mais de son amour. Voilà. Ça, c'est une consécration. Ensuite, il faut savoir que quand Adam et Ève ont été tentés, c'est parce qu'ils ont été amorcés par quelque chose qui était latent en eux, qui traînait quelque part en eux. Lorsque je cultive en moi une certaine attitude qui n'est pas bonne, il ne faut pas s'étonner que tôt ou tard, cette attitude m'amène à pécher. Et c'est ce que dit Jacques. Regardez par exemple Jacques chapitre 4, verset 7. Ou plutôt Jacques chapitre 1, verset 13 à 14.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente par lui-même personne.
Voilà.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Voilà. Ensuite, au verset 7, toujours de Jacques, au chapitre 4.
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Voilà. Donc Adam et Ève avaient la possibilité d'échapper à la chute. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il avait cette possibilité-là. Ensuite, on peut se poser la question, mais pourquoi une peine aussi lourde pour une désobéissance à un commandement aussi insignifiant? Quand même, manger. Bah, ils ont mangé de l'arbre défendu. Ben, c'est vraiment enfantin, c'est minime comme condition. Mais pourquoi la peine a-t-elle été aussi lourde? Eh bien, je dirais que, en fait, pour Dieu, ce n'est pas, l'insignifiance du commandement qui est important, mais c'est le commandement qui est important. Qu'il soit insignifiant ou pas, nous avons à obéir au commandement de Dieu, même si certains commandements, à notre goût, nous les jugeons insignifiants. Cela ne fait pas de nous des petits transgresseurs. Il n'y a pas de petits péchés. Il y a péché, il y a sainteté. Il n'y a pas de petits péchés, non. Ou péchés mignons, ça n'existe pas. Pour Dieu, ce qui est important, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir, non pas au sacrifice, non pas à faire de grandes choses, obéir à des grands commandements. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est vraiment cette obéissance, même au plus petit des commandements de Dieu. Alors, je vous ai donné les références. Vous les lirez chez vous, on n'a pas le temps de les lire maintenant. On va juste terminer par ces quelques questions qui restent, parce que c'est important, on se pose ces questions dans le monde. Est-ce que les enfants qui meurent en bas âge sont sauvés? La réponse est oui. Hein. Parce que nous avons lu que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais un enfant n'a pas conscience de transgresser une loi. Vous regardez un animal, vous êtes blessé ou à la limite tué par un lion. Mais est-ce qu'on peut dire que le lion, il a péché? Il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Ou alors il y a un fou, quelqu'un qui a perdu complètement la raison, qui tue quelqu'un. C'est très pénible. Mais est-ce qu'on peut le tenir pour responsable? S'il est complètement fou, il n'a aucune conscience, il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc il n'y a là aucune responsabilité. Et aussi, une autre question, est-ce que les conséquences du péché sont éternelles? Hélas, oui. Et c'est là le drame. C'est qu'autant les conséquences du péché sont éternelles, autant le remède à ces conséquences-là, lui aussi est éternel. Et donc, nous avons au jour d'aujourd'hui un choix à faire. Nous devons choisir entre les conséquences mauvaises mais néanmoins éternel du péché. Vous trouverez les références. Hein. Je vous les ai donné les références sur ces conséquences éternelles, mauvaises. Mais il y a de l'autre côté, les conséquences bonnes, cette fois-ci. Parce que ce que Dieu avait promis pour l'homme et la femme, de leur envoyer un rédempteur, Dieu a tenu la promesse et le rédempteur est venu. Alors la question ce soir, et nous allons terminer par là, que faisons-nous? Est-ce que nous faisons comme Job? Quelqu'un peut-il lire Job 19, versets 25 et 27?
Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemple mes yeux. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur en vit au milieu de moi.
Voilà. Je sais. Qu'est-ce que je sais? Je sais que mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur. Est-ce qu'il est ton rédempteur? Si c'est oui, il suffit que tu inclines ton cœur vers le Seigneur Jésus. Et ce rédempteur-là devient ton rédempteur. Il est vivant. Et tes yeux, tes propres yeux contempleront sa gloire. Et toi-même, tu seras glorifié dans la gloire de ton Rédempteur. Il est vivant. Alors, quel est ton choix ce soir? Est-ce que tu choisis de vivre avec le tentateur, le calomniateur, le menteur, celui qui a mis la pagaille dans laquelle nous pataugeons jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ou alors, est-ce que tu vas choisir la félicité? À toi de choisir. Prions. Est-ce que David... Oui, tu peux prier, s'il te plaît.
Oui, Seigneur, que ta parole est grande, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as encore entrouvert ce soir cette parole. Tu nous as entrouvert qui tu étais. Tu nous as entrouvert ce que tu avais fait, ce que tu fais, ce que tu vas faire, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut te rendre gloire, te remercier encore pour cet immense privilège que nous avons ce soir d'être ici, d'avoir ouvert ta parole ensemble. Ce privilège que tout le monde ne peut pas avoir, Seigneur. On veut encore te remercier pour cela. Amen.
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 Merci. Bonne soirée.